Et avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 un ancien ministre des Affaires étrangères. Question réaction 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Hubert Védrine, bonjour.
Bonjour.
Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin. L'actualité internationale, l'actualité européenne sont très riches. On va venir dans quelques instants au Brexit, mais commençons par ces législatives en Israël. Netanyahou, Florence Paracuelos nous le disait dans le journal de 8h, est sur la voie d'un cinquième mandat, car il est le mieux placé pour réunir une large coalition de droite. Avant de voir à quoi pourrait ressembler la politique israélienne dans l'hypothèse donc d'un nouveau gouvernement Netanyahou, un mot sur cet homme increvable qui s'est sorti visiblement d'un référendum pour ou contre Netanyahou. Quel regard portez-vous sur le Premier ministre israélien ?
C'est un populiste nationaliste soutenu par toutes les différentes formes d'extrême droite nationaliste ou religieuse en Israël, très efficace, très habile notamment en campagne. Je me rappelle de Bill Clinton, donc cet ancien Bill Clinton, disant depuis l'arrivée des Juifs russes, c'était déjà compliqué avant et maintenant tout est insoluble. Il parlait de la question israélo-palestinienne. Donc depuis, Netanyahou gagne sans arrêt. Les pays arabes ont complètement changé de configuration. Il y a une alliance contre l'Iran, entre Netanyahou, les Saoudiens, Trump. Mmh. Donc il surfe là-dessus. Ce serait un pays européen, il serait clairement à la droite de la Hongrie, hein. Israël d'aujourd'hui. Tous les gens que j'ai connus, moi, depuis 20 ou 30 ans ou plus, qui étaient soit la gauche traditionnelle, soit le camp de la paix, qui est complètement éparpillé, laminé maintenant. Il y a des personnalités magnifiques dans ce qu'ils disent. Puis même la droite classique, disons, d'avant Netanyahou, tous ces gens-là sont quand même éberlués par ce que c'est devenu, souvent désespérés, accablés. Bon, la question, c'est quand est-ce que les Palestiniens vont dire, puisque vous avez détruit toute possibilité d'État palestinien, et que maintenant, ce que fait miroiter Netanyahou, c'est l'annexion pure et simple. On n'est pas dans le même siècle.
De la Cisjordanie.
En phase coloniale, oui. C'est ça.
Est-ce que c'est un propos d'estrade ou est-ce que c'est une hypothèse crédible? Il va le faire.
Rien ne peut l'empêcher parce qu'il n'y a aucune force contre ça. Donc, il peut tout à fait mener sous nos yeux un processus colonial comme ceux qu'on reproche aux Européens d'avoir mené deux siècles avant, parce qu'il n'y a rien en face. Donc, la seule question, c'est quand est-ce que les Palestiniens vont dire bon, on est dans le même État puisque vous avez empêché toute autre solution, on veut des droits égaux. Ça, c'est... Voilà. Alors, je crois que les autres pays dans le monde doivent maintenir une position de principe sur Jérusalem, sur la colonisation, sur les colonies, sur le Golan, dans l'espoir, un jour, peut-être, qu'un fil soit repris, mais on n'a pas de levier, en fait.
La campagne Hubert Védrine a été du même genre que celle qu'ont connue les Britanniques pour le Brexit, les États-Unis avec l'élection de Trump, le Brésil avec celle de Bolsonaro, violence verbale, polarisation extrême, manipulation de l'information, difficulté pour l'outside à faire valoir des arguments face à cette manière-là de faire de la politique. C'est désormais la forme que prennent les élections en démocratie. Va falloir s'y faire maintenant.
Il y a évidemment une crise générale des démocraties représentatives de façon classique, avec une sorte de volonté, de pulsion féroce de démocratie directe, instantanée, ce qui alimente évidemment le populisme, plus le numérique, plus l'information continue, enfin tout ce que vous savez. Après, il y a des spécificités, c'est pas tout à fait là. Par exemple, la façon dont les classes populaires et moyennes ont décroché de la mondialisation à outrance, ou de l'intégration européenne à outrance, c'est un peu différent. Ça joue pas en Israël, ça, par exemple. Ça joue pas au Brésil. C'est d'autres phénomènes, vous voyez. Mais c'est vrai qu'il y a une crise globale, oui.
Alors, venons-en maintenant au Brexit. Ce soir, les 27 sont réunis en sommet extraordinaire pour éventuellement, très certainement, donner un nouveau délai aux Britanniques afin d'éviter une sortie sèche de l'Union. Quelle sera la longueur du délai? On verra ça ce soir. Mais dans l'hypothèse où le délai durerait un an environ, les Britanniques devront, Hubert Védrine, organiser des élections européennes. Ils vont revenir dans les institutions de l'UE, qu'ils pourraient éventuellement bloquer. C'est, je vous laisse le choix de l'adjectif, surréaliste, ubuesque, kafkaïen. Quelle lecture faites-vous de cette, comment dire, de ce dossier infini du Brexit?
Tous vos qualificatifs sont bons. C'est une sorte d'épisode à la Shadok, un peu. Mais c'est pas la peine de s'épuiser en analyse, parce que vous voyez bien, depuis des mois ou deux ans que vous commentez, dès le lendemain, c'est démenti par autre chose. Les Anglais n'en savent rien. Bon. Moi, je me bornerai à dire que tout ça est regrettable, que ça aurait pu être empêché. Dans les années avant Cameron, presque le risque insensé de ce référendum, je pense que du côté européen aussi, on aurait pu être plus intelligent et plus pragmatique.
Ça veut dire quoi, ça?
Et que je pense qu'on aurait pu répondre à certaines des demandes des Anglais, puisque Juncker lui-même, le président de la Commission, disait qu'on avait rendu beaucoup d'Européens allergiques à l'Europe par réglementation à outrance. C'est pas Dupont-Aignan, c'est... Vous voyez, Juncker. Bon, mais ça, c'est avant. Maintenant, je crois qu'il faut aller au-delà des épisodes, en effet, surréalistes à court terme. Au-delà, soit finalement il reste. Moi, je dis tant mieux, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est les méchants Anglais qui nous ont empêchés de faire l'Europe imaginaire que certains souhaitaient. S'ils sortent comme c'est le plus probable, il faut imaginer déjà la suite. Et il y a eu des propositions intéressantes ces dernières semaines de la part du président Macron ou Annegret Kaka en Allemagne sur un conseil de sécurité sur les questions géopolitiques où il y aurait aussi la Grande-Bretagne. Parce que si elle sort quand même, elle sort du système communautaire. Elle sort pas de l'Europe. Donc il faut regarder après, en fait.
Hubert Védrine, il y a quand même cette hypothèse du report et même d'un report jusqu'à en 2020. Si cette hypothèse devient réalité, est-ce qu'il y a un danger pour les Européens, l'Union Européenne?
Danger de quoi? Non. Non.
Danger d'avoir les Anglais qui pourrissent l'Union Européenne encore pendant un an?
Non, mais c'est pas les Anglais. Contrairement à ce qu'on croit beaucoup à Paris, c'est jamais les Anglais qui ont empêché de faire les Européens de faire quelque chose. Quand ils ont voulu faire Schengen, ben ils ont fait Schengen. Quand les Européens ont voulu faire la monnaie unique, ils ont fait la monnaie unique. Les Anglais n'ont jamais rien empêché. Donc c'est les gens qui rêvaient d'une Europe imaginaire dont ne veulent pas les peuples européens, qui disent que c'était de la faute de la Grande-Bretagne et qui sont contents si elle part. Bon. Donc c'est pas mon analyse. Donc j'en reste à ce que j'ai dit avant. S'ils restent finalement, moi je dirais plutôt tant mieux, mais vraisemblablement ils vont sortir et donc il faut se préparer à l'étape suivante.
L'UE s'est montré ferme dans tout ce processus.
Pour le maintien du marché unique.
Voilà. Et
c'est le vrai acquis.
Et puis sur le thème, tout est sur la table maintenant. Le reste, c'est une question de politique intérieure pour les Britanniques. Nous, on a dit tout ce qu'on avait à dire. On a donné tout ce qu'on avait à donner.
Pour le maintien du marché unique.
Oui, mais est-ce que cette position là était légitime, cette fermeté, ou est-ce que ça a compliqué inutilement les choses, que de faire payer le prix fort à un pays qui veut sortir?
Non, l'idée de punition, à mon avis, était injuste sur le plan démocratique, sur le plan des principes, parce que même dans les traités, même Giscard vient introduit dans la Convention, donc ensuite dans le traité de Lisbonne, l'idée qu'on peut sortir, donc on va pas massacrer, matraquer sans arrêt, stigmatiser, hurler contre les gens qui veulent sortir. Après qu'ils veuillent sortir en jouant les deux tableaux, en restant un peu au détriment des règles du marché unique, là je comprends et je salue la réaction homogène des 27 par rapport à ça.
Quand vous dites qu'ils peuvent sortir, qu'ils vont sortir, vous pensez...
Non, c'était dans les traités, je veux dire. On l'a introduit dans les traités, ils avaient le droit normalement.
Mais vous pensez qu'ils vont sortir?
Je suis comme vous, je ne sais pas.
Vous ne savez pas? Est-ce qu'ils peuvent sortir avec un no deal, avec zéro
oui,
accord?
Bah, peut-être, oui.
Et ça serait un cataclysme?
Non, enfin, on verra, on survivra. Et aussi rebondiront peut-être. Enfin, tout ça est absurde, ça n'aurait pas dû exister. Enfin, bon. Mais on verra.
L'affrontement promis, théorisé, peut-être souhaité, Hubert Védrine, des progressistes contre les populistes lors des élections européennes. Cet affrontement vous semble-t-il aller de soi? C'est une description des forces en présence et du nouveau clivage. Ou est-ce une erreur de mener campagne sur ce thème?
J'ai pas l'impression qu'il mène beaucoup en peine sur ce thème, en fait. C'est une expression d'il y a un an à peu près, vous voyez.
Oui, France y est allée un peu plus moderato, voilà. Mais alors, c'est l'idée quand même sous-jacente.
Elle a disparu complètement, mais c'est pas un slogan central dans la campagne telle que je l'entends, mais il faut regarder, je crois que c'est trop simpliste comme présentation. Par exemple, si vous lisez le livre de Bernard Guetta, qui a beaucoup travaillé ici pendant des années et des années, il a fait une enquête dont le chapitre Hongrie, ce qui est très intéressant, c'est que Bernard, qui déteste toutes les idées Orban et autour, bon, il arrive à faire comprendre, tout en désapprouvant à chaque ligne en quelque sorte, il arrive à faire comprendre le mécanisme par lequel les Hongrois, mais c'est vrai de beaucoup de pays d'Europe de l'Est aussi, en sont venus aux positions que l'on connaît, qui sont des positions quand même assez anti-européennes, assez anti-intégration, anti-migration. Donc on comprend, on désapprouve, mais c'est pas simplement la condamnation aveugle comme si on était dans deux camps. Et dans l'affaire des élections européennes qui auront lieu fin mai, je pense que là aussi, comme je le dis pour le Brexit, il faut commencer à penser à la suite, où il faudra bien retrouver un accord global, ne serait-ce que sur la co-gestion généralisée des flux migratoires avec les pays de Schengen, mais aussi les pays de départ et de transit. Mmh. C'est pas impossible à mon avis, mais après les européennes.
Ce sera une Europe minimale, de toute façon, désormais.
Non, parce que...
Vu l'antagonisme
vous
de ces
en
blocs.
Termes géographiques ou en termes de...
En termes de compétences. Je dirais d'ambition, de compétences.
Je crois pas que l'Europe changera beaucoup, en fait, dans son organisation. Je défends avec Pierre Sellal et Luc Vamidelard et d'autres l'idée qu'il y a une sorte d'équilibre qui s'installe. Il n'y aura pas de retour en arrière, parce que même les peuples les plus énervés, comme les Grecs ou les Italiens, ils ne veulent pas lâcher l'euro, qui est quand même une bouée de sauvetage dans une mer démontée qui est le monde chaotique. Bon, très bien. Et il n'y aura jamais le saut en avant, parce qu'il n'y a aucun pays fédéraliste ni parti fédéraliste. Mais il y aura des perfectionnements, des compléments, des projets nouveaux. Il y a des tas de programmes nouveaux qu'on peut développer en Europe, soit tous ensemble, soit à quelques-uns.
Donc vous ne pensez pas que l'Europe... restera immobile, bien que ce bloc nationaliste, ces pays de l'Europe centrale et de l'Est...
C'est un critère parmi d'autres. Hein. La question, c'est plutôt les élites et les peuples en général, parce que même dans les pays non nationalistes ou non populistes, les classes populaires et moyennes ont beaucoup décroché, en fait. Donc c'est ça la question. Et ça, à mon avis, ça peut se rattraper, mais faut abandonner l'histoire du vélo. Vous savez, l'Europe tombe si elle n'avance pas. Non, ça va se stabiliser à peu près autour de ce que Delors avait appelé il y a déjà longtemps, d'un terme oxymoresque, mais juste une fédération d'États-nations. Donc on sera toujours un peu dans la même situation. Mmh. En plus, aux Européennes, on ne joue pas à qui tout double l'Europe. Mmh. Hein. Mais ce n'est pas une stabilisation passive et stérile, puisque je pense qu'il y aura beaucoup de perfectionnement. J'ai cité par exemple un nouveau système Schengen. Mmh.
Hubert Védrine, c'est le 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Le rôle de la France dans ce génocide fait l'objet d'enquêtes longues et suivies de la part d'un certain nombre de journalistes et d'historiens. Certains évoquent une complicité de la France. Emmanuel Macron a demandé à une commission d'historiens de travailler sur le rôle de la France dans ce moment 1990-1994. Est-ce que pour commencer, vous contestez, en dépit de ces travaux d'historiens et de journalistes, l'idée de complicité de la France dans le génocide des Tutsis ?
Totalement. Totalement. J'ai été extrêmement choqué de ce qu'a dit Mme Anifor, qui sans doute était traumatisée par le génocide. Je respecte ça et je comprends très bien, mais ce n'est pas une raison.
Permettez-moi juste de préciser pour nos auditeurs qu'ils l'ont entendu effectivement lundi matin dans le 7-9. Annie Faure est une militante socialiste, membre de Médecins du Monde au Rwanda pendant le génocide. Elle réclame que toute la lumière soit faite sur le rôle de François Mitterrand et sur le vôtre, Hubert Védrine, comme secrétaire général de l'Élysée à l'époque. Elle vous met nommément en cause. Elle demande au PS donc de faire la lumière. Vous lui répondez quoi ?
Je réponds que ce sont des accusations insensées. Je respecte sa douleur, naturellement, mais c'est insensé. Je réfute totalement ces affirmations, ces assertions qui sont fausses, qui ne reposent sur rien, qui sont diffamatoires. Diffamatoires. Et d'ailleurs, je me réserve d'en tirer toutes les conséquences en ce qui concerne cette déclaration. Pour le reste, puisque vous parlez des historiens qui travaillent, je vous conseille, même en les invitant ici, de faire parler les experts belges, canadiens, les gens de la BBC qui ont enquêté sur le sujet il y a 3 ans, les juges espagnols qui ont très bien analysé la technique du FPR quand il attaquait le Rwanda au début, Carla Del Ponte, qui avait été empêchée d'enquêter sur certaines choses, les Congolais, pourquoi pas les Congolais, qui sont francophones aussi, vous en trouverez ici, et tous ensemble, le point commun, c'est qu'ils ne reprennent jamais. Jamais, jamais, les accusations qui sont maintenant dominantes dans les médias français.
Vous contestez le travail des journalistes français.
Ça dépend lesquels.
Mais sur ce sujet-là, les historiens également, vous estimez qu'ils font fausse route.
Les historiens, certains. Par exemple, j'ai ici le que sais-je de Philippe Rinchtens, le principal expert belge au tribunal d'Arusha. Le génocide des Tutsis au Rwanda. C'est un livre impressionnant, parce que la description du génocide, c'est vraiment absolument atroce, y compris pour les gens qui n'étaient pas sur place. Mais comme l'analyse n'est pas l'analyse dominante et qui ne s'intéresse pas tellement à la responsabilité de la France, il fait des critiques sur la France, il n'est pas pro-français non plus. Donc il critique des erreurs d'appréciation à tel ou tel moment. Par exemple, ce n'est pas anormal de discuter sur est-ce qu'il fallait ou pas s'engager en 90, est-ce qu'il faut pas se demander si après Arusha, qui était le but de la France, la France ne soutenait pas un régime contre un autre clan. La France tordait le bras des deux camps Hutu et Tutsi pour leur imposer un compromis qui a été imposé l'été 93 à Arusha. Après Arusha, on peut se dire que c'est peut-être une erreur collective géante de ne pas avoir maintenu et envoyé des forces énormes pour imposer l'application des accords d'Arusha. Voilà un exemple de sujet dont on pourrait débattre s'il n'y avait pas en permanence cette accusation monstrueuse.
Accusation monstrueuse, dites-vous, mais vous...
C'est sur la complicité que je dis ça. Hein.
Oui, mais...
Par contre, le débat est libre sur les autres points.
Voilà, la commission d'historiens voulue par le président de la République est-elle, à vos yeux, sans objet ?
Non, j'ai pas dit ça. D'ailleurs,
non, mais je vous
pose
la question.
Je n'ai pas tellement de commentaires sur... Emmanuel Macron, il a hérité d'une situation pourrie, parce qu'en 2008... Quand le régime de Kigali a fait fabriquer le rapport d'accusation contre la France, parce qu'à l'époque, ils avaient peur des conclusions du juge Bruguière. C'est ça l'origine de toutes les accusations qui sont reprises en boucle, sans arrêt. Donc c'est en 2008. Le président Macron, il arrive longtemps après, il est réaliste, et il dit, bon, faisons le point par rapport à ça. Donc moi, j'ai aucun problème sur les archives. L'Institut Mitterrand n'a aucune archive. Donc ça relève des archives nationales. Mmh. Et les principaux chefs militaires de l'époque à qui on donne enfin la parole, après que ceux qui les attaquent étaient invités dans 50 endroits, disent qu'il n'y a aucun problème pour eux par rapport aux archives. Donc j'ai pas de problème là-dessus. Je souhaite que cette commission, et je pars de l'idée qu'elle fera de son mieux. Hein.
On file au standard, Thierry nous appelle du Rhône, de Lyon. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur Védrine a déjà répondu en partie à ma question, mais je la repose en voulant repousser le Brexit et à l'approche des élections européennes. L'Angleterre n'est-elle pas en train de paralyser l'Union européenne ?
Alors, merci Thierry. Plus d'éléments, Hubert Védrine.
C'est vrai, c'est ubuesque. Enfin, vous l'avez dit vous-même, si les Anglais votent pour une élection, pour une union dont ils vont sortir, ça peut compliquer la vie du Parlement européen. Ça pourrait peut-être amener à être obligé à revoter après. Mais enfin, l'Union est quand même assez solide. Il n'y a pas que le Parlement, il y a le Conseil européen, il y a la Commission, il y a la Cour de justice. Donc oui, c'est complètement absurde, c'est incohérent, mais en même temps, certains des Anglais, je pense, hein, on n'est pas sûr, jouent ça pour de fil en aiguille rester au bout du compte, en espérant peut-être reconstituer les éléments d'un nouveau référendum. Mais comme on ne comprend pas très bien leur jeu, je n'irai pas au-delà de ce commentaire.
Roger est en ligne depuis Paris. Bonjour Roger.
Oui, bonjour Monsieur Védrine. Oui. Je voudrais savoir si vous considérez que le résultat du vote obtenu en Israël a été obtenu démocratiquement.
Pourquoi vous posez cette question de cette manière ?
Parce que apparemment les résultats ne plaisent pas à Monsieur Védrine.
Ah.
Et je pense que la mesure où tous les citoyens israéliens, juifs ou arabes, ont le même droit de vote, dispose du même bulletin de vote. Mmh. Et c'est le résultat, il faut le respecter, on n'a pas à choisir pour les Israéliens.
Merci Roger pour cette question. Hubert Védrine va pouvoir préciser ses propos. Je ne les ai pas entendus comme ça, mais c'est Hubert Védrine qui vous répond, Roger.
Ah, j'ai fait aucun commentaire qui mette en doute le caractère démocratique réel du vote pour Netanyahu. J'ai même rendu hommage à ses talents. Ces talents de nationaliste israélien, populiste, soutenu par tous les nationalistes religieux. Mais ça, c'est une analyse. Il n'y a aucun élément dans le vote. Et ce que j'ai dit sur la question posée aux Palestiniens, qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette situation par rapport à la menace de l'annexion, c'est une remarque politique. Donc il n'y a rien dans mes propos qui mette en cause ce vote. C'est pas un des pays où on peut dire le vote est truqué. C'est pas le sujet. On peut s'interroger sur où ça conduit Israël demain.
Avant d'en venir à l'Algérie, on donne la parole à Denis, qui est au standard. Denis, toujours sur le Rwanda, Hubert Védrine, il y a énormément de questions sur ce thème-là. Denis, bonjour.
Bonjour, la question est très simple. Que répondriez-vous, monsieur Védrine, à un Tutsi qui demanderait à un survivant du génocide, qu'avez-vous fait, vous, pour nous sauver ?
Merci Denis pour cette question directe. Hubert Védrine.
D'abord, j'ai parlé souvent avec des Tutsis, des responsables. J'ai même rencontré le président Kagame, moi, quand j'étais ministre. J'ai rencontré deux fois. S'il avait cru le quart du millième de ce que racontent tous ceux qui attaquent à Paris, il m'aurait évidemment pas reçu. Mais j'ai parlé deux fois avec lui, j'ai parlé beaucoup avec des Tutsis. J'ai d'ailleurs parlé avec le jeune député brillant et sympathique que Emmanuel Macron a désigné pour le représenter à la commémoration à Kigali. Et par ailleurs, je résume mon idée, c'est que la France est le seul pays au monde qui a compris dès 90 avec les attaques du FPR, que c'est là enclencher une guerre civile. Personne n'imaginait que ça prendrait les proportions du génocide, mais la volonté de ce petit groupe de prendre le pouvoir par la force, parce qu'il représentait Tutsi de l'extérieur, 3 à 4%, donc en créant le chaos, ce que les juges espagnols ont très bien expliqué, comment ils ont fait. Donc la France était la seule, c'est dommage. La France était jusqu'à Arusha, c'était formidable. C'est-à-dire Alain Juppé était très, très heureux, très soulagé qu'on ait pu imposer l'accord d'Arusha. Je pense qu'il y a eu une certaine crédulité, une certaine naïveté en ne cherchant pas à rester à Arusha après en faisant venir beaucoup de forces internationales. Mais il est vrai que le FPR posait comme condition, parce qu'il voulait prendre tout le pouvoir en fait, qu'on ne reste pas. Donc je dirais, ce qui s'est passé est atroce. Mais la France est le seul pays qui a tenté, c'est un pompier qui a échoué, parce que ça n'a pas marché.
Mais ensuite, pendant...
Mais on peut faire tous les reproches qu'on veut, sauf celui de complicité.
Mais pendant le génocide, est-ce que... Alors vous récusez le terme de complicité, mais pendant le génocide...
Évidemment, évidemment.
Il y a des questions sur l'attitude des militaires français de l'opération turquoise. Est-ce que vous dites, Hubert Védrine, qu'il n'y a pas de zone d'ombre? Je pense au massacre de Bicêtre. Est-ce que vous dites qu'il n'y a pas des choses quand même à éclaircir?
Les chefs militaires français ont répondu souvent là-dessus, en disant que s'ils avaient pu, s'ils avaient les moyens, il y avait énormément d'alertes sur beaucoup d'endroits, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ce n'était pas tout à fait le mandat des Nations Unies. Je rappellerai sur Turquoise, si la France avait été, comme le disent certains complotistes, l'ami d'un régime génocidaire, elle n'aurait pas attendu des semaines aux Nations Unies pour avoir l'accord des Nations Unies pour y aller, pour faire une opération humanitaire. Elle aurait envoyé une force tout de suite dans la semaine, s'il s'agissait de maintenir le pouvoir dans ce régime. Donc il y a une sorte d'incohérence dans l'accusation. Quant à l'affaire turquoise, donc elle a eu lieu au bout de plusieurs semaines, il n'y avait pas que des forces françaises, il y avait des forces d'autres pays, notamment africains. Et les responsables militaires français, je sais bien qu'il est la culture moderne, c'est de ne pas croire les chefs de quoi que ce soit. Il n'empêche que Langsade, Lafourcade, Quesnot, répondent 36 fois. Quesnot a gagné en diffamation contre Saint-Exupéry sur ces sujets.
Patrick de Saint-Exupéry, journaliste. Il a bien fait, Emmanuel Macron, d'envoyer le député Berville et de ne pas se rendre lui-même aux commémorations du génocide.
Je pense qu'il a, il a bien fait, oui.
Pourquoi?
Écoutez, faites parler ce Berville, vous verrez pourquoi le président a eu raison de le choisir.
On est en ligne avec Farouk sur l'Algérie. Bonjour Farouk.
Bonjour à tous, bonjour la matinale France Inter.
Bonjour.
Merci d'avoir pris ma question.
Je vous en prie.
Et donc voilà, je voudrais poser la question à Monsieur Védrine qui connaît très très bien l'Algérie. Je voudrais connaître son avis sur ce qui se passe et nous donner bien sûr, enfin entre guillemets, un pronostic sur justement l'avenir de ce qui se passe en ce moment en Algérie. Voilà.
Merci Farouk. Hubert Védrine vous répond.
Pour le moment, ce qui se passe, ce qui démarre, est très encourageant. La façon dont ces manifestations ont eu lieu, se sont organisées, sont restées calmes et pacifiques, tout le monde ne peut pas en dire autant, c'est formidable quand même. Donc on se dit que c'est peut-être le pays où les printemps arabes, qui ont été dans la plupart des cas catastrophiques la première fois, pourraient fonctionner bien. C'est peut-être ce pays qui est vacciné, parce qu'il y a la guerre civile, quand même 200 000 morts, avec une population très jeune, mais quand même qui n'a pas perdu la mémoire, une diaspora algérienne absolument remarquable, ça peut peut-être fonctionner. Mais c'est un long processus, on peut pas juger en 15 jours. Il y a énormément de gens dans le système établi depuis le début, en tout cas depuis Boumediene, qui veulent garder le système, qui vont essayer de gagner du temps, qui vont faire des contre-feux, mais...
Mais pour
ça
vous, c'est un printemps arabe, Hubert Védrine.
Ça peut devenir un printemps arabe. C'est un dégel d'un système qui était complètement verrouillé. Il faut espérer que ça ne tournera pas à la débâcle. Ça peut justement être un processus qui, s'il marche, aura des effets d'entraînement, des effets d'exemplarité partout. Cela dit, on n'y peut rien. Ça ne dépend pas de nous. Moins on en dit, mieux on se porte. Parce que tout ce qui est dit, notamment depuis la France, mais également depuis le Maroc, la Tunisie, l'Espagne, l'Italie, ça se retourne contre ceux qu'on voudrait aider dans ces cas-là. Donc il faut être beaucoup de sang-froid, beaucoup de respect. On peut avoir beaucoup d'espérance. Et après, on verra ce qu'ils nous demanderont.
Difficile de trouver quelqu'un qui soit en dehors du système Bouteflika. C'est ce que reprochent d'ailleurs les Algériens Abdelkader Ben Salah, qui a 90 jours désormais pour organiser des élections présidentielles.
Des nouvelles forces vont surgir, des nouvelles personnalités vont surgir. Il y a beaucoup d'Algériens de talent à l'extérieur qui reviendront peut-être quand ils verront que c'est encourageant. Non, mais ça ne va pas se juger en... Là aussi, économisez vos analyses, c'est comme sur le Brexit, parce que ça va...
Mais vous ne mesurez pas votre joie, quand même, à voir ce qui se passe, on l'a entendu.
Je suis très heureux de ce qu'ils s'engagent en Algérie, en espérant beaucoup que ça se passe bien. Mais il y a des risques de dérapage, de dérive, de réaction dans l'autre sens.
Mais jusqu'ici, tout va bien. Merci.
Ça démarre bien.
Ça démarre bien. Merci Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, d'avoir été au micro d'Inter ce matin.